Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et donc, vous venez d'entendre les Thugs, ce fameux groupe angevin des années 90. Les meilleures années du monde en musique. Et c'était le morceau Your Kind of Freedom. Donc, les Thugs d'ailleurs qui sont relancés plus ou moins, je crois, récemment. Et ce soir, avec Jean-Mathias, on va vous présenter un livre sorti en mars dernier de François Errant, qui est sociologue, démographe, professeur au Collège de France, et qui a publié un bouquin qui s'intitule « Lettre au professeur sur la liberté d'expression ». Donc c'est une lettre à l'origine qui a été publiée sur la Vie des Idées, sur le site internet « La Vie des Idées ». Ce qui est intéressant, c'est que là, La Vie des Idées, le Collège de France,
peut-être donner le contexte quand même. C'est une lettre qui publie l'assassinat de Samuel Paty.
Oui, dans les 15 jours qui suivent.
Juste avant l'hommage républicain que les enseignants sont censés animer partout dans toutes les écoles
pendant
de France
vacances.
Et de Navarre. Donc c'était la rentrée des vacances d'automne, hein, c'était ça. Et donc effectivement, quelques jours avant l'hommage national prévu et voulu par le ministre Blanquer, en fait, Errant publie ce texte sur la Vie des Idées comme une espèce de premier jet avec des indications en fait de références et de parcours possibles pour animer le fameux hommage et faire réfléchir les élèves sur la notion de liberté d'expression. C'est ça, donc ça c'est le premier jet du texte.
Hommage qui sera finalement annulé par Blanquer.
L'hommage est finalement annulé par Blanquer. Son texte circule pas mal à ce moment-là.
Oui, il circule bien beaucoup.
Il circule beaucoup. Il crée pas mal de débats, de polémiques aussi. C'est-à-dire qu'il est attaqué, pas mal, y compris en ligne, etc. Y compris par des gens qui sont avec qui Errant a travaillé auparavant. Et en fait, ça va donc le motiver à compléter et développer en fait l'argumentaire qui était un petit peu embryonnaire dans ce texte d'une dizaine de pages, si je me souviens bien. Et il va le développer dans un livre donc beaucoup plus consistant là, qui fait, enfin c'est pas très long, hein, mais ça fait 250 pages, je dirais.
Ça se lit vite.
Ça se lit vite, ça se lit bien. Oui. Et ce livre-là, c'est celui qu'on va vous présenter, qui lui va être publié et va être édité à la Découverte en mars dernier. Voilà. Donc c'est un truc en deux temps. Voilà. C'est un texte qui se développe. D'abord sur une réaction un peu de circonstance là, et puis ensuite dans un deuxième temps, voilà, avec réponse aux objections, avec discussion, c'est un texte de débat. Un texte de débat et aussi de
clarification.
De clarification. Alors, d'où effectivement le titre. Alors, le titre, il est peut-être un peu trompeur, et moi, je ne sais pas s'il est très, très, très bon, parce qu'il risque d'être un peu minorant, en fait. C'est-à-dire, si c'est une lettre au professeur, si on n'est pas professeur, on ne se sent pas forcément concerné. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et en fait, la lettre au professeur sur la liberté d'expression, c'est le titre qu'avait au départ le premier texte, justement,
initial. Qui était clairement ça, une lettre au professeur.
Qui était clairement ça, pour le coup, effectivement, destiné au professeur dans le cadre de cet hommage républicain. Et voilà. Et donc, après, voilà, c'est le titre-là qui reste. La lettre est republiée en entier au début du livre, la première. Et puis, du coup, c'est ce titre-là. Mais effectivement, je pense que le titre,
c'est un truc d'éditeur.
C'est un truc d'éditeur. Et qui, alors, bon, effectivement, donc il y a des profs, il y en a beaucoup, beaucoup dans ce pays, mais il n'y a pas que des profs dans ce pays quand même. Il y en a trop
payés,
trop de l'institut.
Bref. Ouais. Mais Loël, situe aussi le contexte un petit peu de publication, c'est intéressant parce que entre La Vie des idées, La Découverte, le Collège de France et tout, on n'est clairement pas dans des milieux révolutionnaires, revendicatifs, ultra militants. Et malgré tout, Jean-Mathias et moi, on a trouvé que le bouquin était, plutôt carré et honnête et qu'il gagnait vraiment à être lu parce que justement... François Errant va poser tout un tas de souligner tout un tas de problèmes dans le discours médiatique ambiant et va montrer que finalement toute une espèce de d'idées super courantes qu'on va trouver pas seulement dans les Je suis Charlie mais aussi dans Valeurs Actuelles, dans chez Taguieff, en réalité le discours médiatique dominant quoi est beaucoup plus problématique qu'il n'en a l'air et fait comme si tout un tas de contradictions, d'histoires, de faits n'existaient tout simplement pas. Et donc c'est un livre qui, à mon avis, de ce point de vue-là, vraiment très intéressant à lire, même s'il n'y a pas forcément d'un abord politique, disons, révolutionnaire.
Il y a la cible du livre, c'est assez difficile à définir, parce qu'effectivement, un discours médiatique dominant, mais ce n'est pas qu'un discours médiatique, parce que c'est aussi un discours politique, porté par le gouvernement, par les institutions, par les ministres, voilà. Donc derrière la cible d'Errant, c'est quoi? C'est au fond une espèce d'orthodoxie républicaine, on va dire, autoritaire, qui tend maintenant à établir une espèce de chantage sur cette question de la liberté d'expression et sur la question de la place des religions et en particulier de l'islam en France, et qui tend à instaurer le chantage suivant, c'est à partir du moment où il n'y a pas de liberté de critique totale possible de l'islam, et bien en fait on est forcément en train de soutenir l'islamisme rampant qui est à l'œuvre un peu partout, et notamment en France. Et en fait, justement, ce qu'il essaye de faire là, dans ce livre-là, c'est de montrer que on peut parfaitement défendre la liberté d'expression sans forcément rentrer dans ce chantage-là. Et on peut défendre la liberté d'expression en même temps que la liberté de conscience et la liberté de culte, et qu'il est à peu près impossible de faire primer l'une sur l'autre, et que questions...
Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il montre que ces deux libertés ne sont pas forcément cohérentes ensemble.
Exactement.
Et que il va souvent falloir procéder à des arbitrages qui sont assez subtils, assez fins, qui vont varier selon les circonstances, mais que justement cette cohérence a priori de la liberté d'expression et de la liberté de conscience sont pas du tout évidentes.
On peut essayer de clarifier encore un petit peu, hein, parce qu'effectivement c'est tellement matraqué et tellement dans l'air du temps que c'est pas forcément facile à débusquer ou à formuler. Mais en gros, ce qu'il conteste, c'est l'idée qu'en fait, on serait contraint, au nom de la liberté d'expression, d'autoriser toutes les critiques, y compris les plus agressives ou les plus humiliantes, à l'égard des religions
et en particulier aussi les plus stupides,
Les plus grossières. Et si effectivement on ne défend pas absolument toutes ces formes de critiques là, ça voudrait dire qu'effectivement qu'on a des sympathies religieuses et tendanciellement islamistes. Voilà, pour dire les choses. Et donc évidemment le contexte de l'assassinat de Samuel Paty, donc voilà, si effectivement on n'est pas prêt à soutenir la liberté d'expression des caricaturistes de Charlie Hebdo contre vents et marées, eh bien ça veut dire qu'on soutient l'assassin de Samuel Paty, puisque de proche en proche, effectivement on laisse la porte à ce type de discours-là, à ce type de protestation-là, et aux radicalisations qui peuvent s'en suivre, et donc effectivement à la possibilité du meurtre qui est ouverte derrière. Et donc évidemment il essaye de sortir de cet étau-là, pas uniquement par des arguments, mais comme tu l'as dit, avec des rappels historiques d'abord, juridiques d'abord, hein, il sait qu'il y a tout un tas de références juridiques. Alors c'est pas tant un plaidoyer juridique serré, mais en fait c'est un rappel des textes juridiques et de principes juridiques, de principes de droit en fait plutôt. Hein.
L'histoire avec l'histoire de réflexion à l'intérieur de la République française sur cette question, et c'est une histoire qui est beaucoup plus nuancée
Que ce que les républicains autoproclamés voudraient bien le dire. Donc il y a cet aspect juridique, il y a l'aspect historique, t'as raison, sur l'histoire notamment de la Déclaration des droits de l'homme, sur l'histoire des différents articles qui parlent de la liberté d'expression et de la liberté de conscience, et toujours les deux de manière indissociable, en laissant justement ouverte la question de savoir comment on équilibre les deux. Donc il montre effectivement qu'il y a...
grands moments, la Révolution française,
ouais.
Et il est assez... il est assez ironique, parce qu'il rappelle aussi à quel point les révolutionnaires français se sont inspirés des textes américains, de la Révolution américaine, à quel point on avait déjà commencé à importer les idées venues d'Amérique. la cancel culture, les woke et tout, c'était déjà en 1789, vous vous rendez compte? Quelle horreur. Et
donc il y a tout cet aspect-là.
Et puis aussi le deuxième grand moment, c'est les débuts de la troisième. Et donc là, il se fait un malin plaisir à citer des textes.
La Troisième République, hein, tu te dis, avec la mise en place de la laïcité républicaine.
C'est ça. Mais des textes qui aujourd'hui seraient sans doute qualifiés d'islamo-gauchisme,
d'évoquisme. De Jules Ferry,
de Jaurès, de Clémenceau. Et tout un tas de gens qui. Donc ils montrent aussi les contradictions et les saloperies qu'ils ont pu écrire à l'époque. Hein. Ils les citent. De façon assez judicieuse, mais il montre à quel point finalement la République naissante est
beaucoup plus prudente sur la question de la manière dont l'école notamment doit se situer vis-à-vis des croyances religieuses comment ça s'éduque, comment ça s'enseigne, qu'est-ce que c'est la pédagogie de la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est la pédagogie de la liberté, au fond c'est ça, hein, c'est un texte qui est un petit peu là-dessus. Donc il y a les références juridiques historiques comme tu l'as dit, il y a aussi toute une réflexion et des éléments assez intéressants factuels je trouve sur l'espèce de soutien d'État dont bénéficie aujourd'hui un certain type de caricature comme celle développée dans Charlie, avec une analyse assez effarante là je trouve, de fiches pédagogiques avec qui captent subventions, tous les tampons officiels du ministère de l'Éducation nationale pour effectivement défendre des caricatures de Charlie qui sont pour le moins discutables pour certaines, et il y a aussi tout un aspect factuel qui repousse son travail de démographe proprement dit, et indispensable aussi à la fin, sur la question de l'islamophobie factuelle en France, notamment de la discrimination religieuse à l'embauche, par exemple, qui, il le montre, peut être mesurée, quantifiée de manière
objective,
et qui donc...
Qui l'est.
Donc il rappelle comme ça un certain nombre de chiffres là-dessus sur la discrimination religieuse, c'est-à-dire effectivement les mentions de pratiques religieuses, comment ça vous empêche tout simplement d'accéder, d'avoir du boulot en fait aujourd'hui en France. Et il y a aussi un petit florilège assez savoureux après remise en perspective sur l'islamophobie traditionnelle française, avec des textes d'auteurs liés notamment à l'appareil à ce moment de la Troisième République, hein, notamment le début de l'essor colonial français sur la deuxième moitié du 19e, là, avec des textes assez intéressants, je trouve. Bon, on en citera quelques-uns parce que ça vaut le coup. Ce qui fait une mine d'informations un peu comme ça. Enfin, il y a plein d'angles d'attaque de cette question, avec derrière un positionnement qu'on pourrait qualifié, je sais pas, de libéral un peu solide, quoi, sur l'idée de défenseur, en tout cas, de la liberté d'expression, mais pas si ça se fait au prix de la suppression de la liberté de conscience et de la liberté de croyance.
Ou la liberté de recherche académique.
Ou la liberté de recherche académique, effectivement.
Parce que c'est quand même un gros problème.
Ouais. Et donc c'est une position qui est assez qui est stimulante, je trouve, hein, parce qu'elle est ferme, elle est assez équilibrée, elle est informée. Et elle fait un petit peu du bien parce qu'elle permet de sortir un petit peu des chantages et des jeux de ping-pong permanents entre défenseurs autoproclamés de la République et d'une laïcité républicaine anti-islam, pour dire les choses, parce que elle est même pas anti-religieuse, elle est quand même très majoritairement anti-islam d'un côté, et puis de l'autre côté la défense de l'islam pour des arguments qui peuvent être tout aussi discutables, hein, voilà, et donc c'est l'intérêt du bouquin très riche par la diversité des angles qui mobilise, quoi.
C'est-à-dire que d'autant plus que, enfin, vu la pauvreté du débat public, ouais, à ce sujet, on a beau dire, quoi, mais ça fait du bien d'avoir un argumentaire, quelque chose de discutable, évidemment, ouais, sur certains points où nous, on n'est pas forcément d'accord, mais avec lui, mais malgré tout, il y a des documents, il y a des références, il essaie de sortir de l'invective, de l'insulte et d'une position trop polémique. Donc on va s'interrompre un petit peu, arrêter de vous saouler et vous passer de la bonne musique.
Et puis après, on va rentrer un petit peu dans les...
Et puis après, on va vous saouler encore.
Dans les textes proprement dit.
Les Français sont nuls en basket et sont fachos. Les Espagnols sont tout petits et ils mangent des taureaux. Les Kenyans chassent le lion le dimanche. D'ailleurs, ils s'y prennent comme des manches. Les Irlandais sont des pochetrons. Les Ricains sont tous des mormons. Les Juifs sont tous des diamantaires. Y'a qu'à demander à Dieu donné. C'est un complot de milliardaires, mais vous n'aurez pas la liberté de poncif. Les Japonais sont forts en maths et en compta. Appelez un gauche autrement, non, ça je ne pourrais pas. Les Brésiliens sont des travelots, les Italiens sont gigolos, les musulmans sont islamistes, les gens de gauche sont bobos, les filles sont toutes un peu lesbiennes. Et je vais pas parler des PD, car ce serait mal interprété, et tout le monde n'a pas la liberté de poncif. Hey, 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 hey. Une débectable, sans jamais craindre la justice. Mais c'est mon froc et j'en suis capable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de poursuivre. Les garagistes sont des voleurs comme les gitans. La musique adoucit les mœurs, à part Wagner c'est évident. Les écolos sont des hippies, les syndiqués sont des pourris. À part Bigard qui est marrant, les artistes sont tous des feignants. Zemmour est un intellectuel. Et d'ailleurs il passe à la télé. mes propos te font dégueuler parce que tu n'as pas et t'auras jamais. Enfin, c'est ce que je te souhaite, la liberté de poncif.
Sur Radio Libertaire 89.4, à la radio sans Dieu ni maître ni publicité, c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie. Vous venez d'entendre un groupe de Mon Cul, XOR. Mon Cul, c'est un label. Hein.
Et donc, c'est un village aussi.
Mais c'est pas Mon Cul. Et donc, et c'était le titre, c'était Ma Liberté de Poncif. Donc une allusion extrêmement subtile au morceau d'un chanteur français exilé pour la liberté en Patagonie, hein, comme vous le savez tous, j'imagine. Et XOR, ben voilà, quoi, une grande référence des années 80. Et on vous présente, outre ces sottises, un livre de François Héran qui s'intitule « Lettre au professeur sur la liberté d'expression », édité chez La Découverte en mars dernier. Et donc, voilà, on vous a présenté un petit peu en première partie le contexte, on va dire, récent, au sujet dans lequel est sorti ce livre. Et là, on voudrait rentrer un petit peu dans certains détails qui nous ont paru plus, comment dire, peut-être plus accrocheurs que d'autres.
Ouais.
Alors, c'est un livre qui est vraiment, comment dire, qui est pas jargonnant,
qui se
lit très bien.
Ouais.
Donc, pour le coup, bon, parfois on donne dans le jargon et dans des bouquins un peu louches, mais là, c'est quelque chose qui se veut très pédagogique et qui l'est, je pense.
Et qui l'est, ouais. Une des lignes, je trouve effectivement, qui est claire là, dans le livre, c'est la manière dont il explique finalement qu'on ne peut pas défendre la liberté d'expression de manière absolue et indépendamment. Des autres libertés auxquelles elle est susceptible effectivement de nuire.
Oui.
Et donc en fait tout son argumentaire, ça consiste à montrer que si on défend la liberté d'expression, ça ne peut pas se faire au détriment par exemple de la liberté de conscience, qui est une c'est-à-dire la liberté de croire ce que l'on veut, hein, le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions politiques
même religieuses.
Ouais. Et donc en fait ce qu'il montre et ce qu'il rappelle, c'est qu'en fait on a là deux principes de liberté, qui juridiquement en fait sont équivalents. Il n'y en a pas un qui peut être mis au-dessus de l'autre. C'est-à-dire que les deux sont effectivement prévus par les législateurs, mais aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, donc sur des principes de droit, hein, indépendamment des textes en application. Ces deux principes qui doivent effectivement être respectés de la même manière et qui ont la même force, la même valeur d'une certaine manière.
Et historiquement, c'est intéressant parce qu'un des défenseurs justement de la liberté de conscience, ouais, c'est un protestant pendant la Révolution française.
Pendant la Révolution,
ouais. Donc un protestant, donc une minorité religieuse, qui a une longue expérience des persécutions religieuses liées à la majorité catholique.
Ouais.
Et justement, beaucoup de débats vont s'articuler autour de ça, de dire la minorité protestante qui craint finalement si les principes de la Constitution sont mal établis en matière de liberté de conscience, qui craint d'être opprimé par la majorité catholique.
Oui, mais qui va défendre également aussi une conception qui serait la plus large possible de la liberté d'expression.
Oui.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement c'est les deux principes sont...
Il cherche un équilibre
qui soit optimum pour les deux principes.
Oui.
Et c'est pas simple. Et c'est pas simple du tout, parce qu'effectivement, il peut y avoir empiètement de l'un sur l'autre. Et alors, dans l'affaire des caricatures, évidemment, c'est une bonne manière, effectivement, de poser le problème. C'est-à-dire que la question est de savoir si la liberté d'expression, la liberté de caricaturer l'islam ou les musulmans, hein, est-ce qu'elle est inconditionnelle, est-ce qu'elle est sans limite, est-ce qu'elle doit être absolue, ou bien est-ce qu'elle ne rencontre pas à un moment donné une autre liberté tout aussi fondamentale qui est celle de la liberté de conscience, le fait de ne pas être insulté, ou le fait de ne pas recevoir de nuisance sur sa liberté de croire ou d'avoir telle ou telle conviction politique ou religieuse en l'occurrence.
Qui pose après une question aussi importante, c'est dans quelle mesure on a droit de critiquer la religion.
Exactement. Et donc, ce sont des questions extrêmement, extrêmement légitimes, hein, parce qu'on doit pouvoir critiquer la religion au nom de la liberté d'expression, ça c'est clair. Et en même temps, un croyant ou un non-croyant doit pouvoir aussi être respecté du point de vue civil, je dirais, ou du point de vue de la vie sociale, dans ses croyances ou dans ses pratiques. Donc toute la question, effectivement, de savoir comment on arrive à concilier ces deux principes-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, il est difficile de trancher de manière absolue en faveur de l'un ou de l'autre. Hein. Effectivement, c'est les deux principes doivent être effectivement traités de la même manière. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas posé de manière uniquement comme ça, théorique ou abstraite chez lui. Et il y a une manière, en fait, je trouve que moi j'ai trouvé très intéressante de pour lui d'illustrer ça. C'est le débat qui restitue en fait entre les deux grands journaux satiriques français, à savoir Le Canard Enchaîné et d'une part et Charlie Hebdo de l'autre côté. Et alors, il y a des citations là. En fait, c'est des débats qui ont eu lieu. Alors, avant évidemment les attentats de Charlie, assez notamment. Donc évidemment, c'est délicat maintenant effectivement de reprendre les échanges et de les remettre en perspective. Mais il prend le risque quand même de le faire parce qu'il trouve que derrière il y a des vraies questions. Et je pense qu'il a raison sur la manière effectivement de représenter la religion, de représenter la critique, enfin de faire une satire effectivement de la religion. Comment on s'y prend Qu'est-ce qu'on s'autorise, comment on s'auto-limite dans cette affaire-là. Et ce sont des caricaturistes notoirement anti-religieux des deux côtés, en fait, qui discutent et qui sont en désaccord. Et ils montrent qu'effectivement, c'est un désaccord qui est assez ancien, notamment entre l'équipe de Charlie et l'équipe du Canard. Qui partagent aussi des dessinateurs. C'est ça qui est intéressant. Cabu, qui est voilà, donc assassiné en 2015, était dessinateur au Canard comme chez Charlie. Et alors le débat en fait voilà sur donc et il oppose notamment Pétillon qui était un dessinateur aussi
du Canard
très très célèbre du Canard et Charb donc rédacteur en chef de Charlie et il montre qu'en fait et ben il y a peut-être que en tout cas du point de vue de la sur la question de la caricature le piège dans lequel est tombé le débat au moins c'est celui du piège de ce qu'il appelle le piège de l'absolu et l'idée justement de poser une espèce de liberté la liberté expression doit être absolue ou bien elle n'est pas d'une certaine manière. Et ce qui a été effectivement une des lignes sur lesquelles s'est positionné Charb.
Et ce qui repose sur deux choses qui sont ou paradoxales ou contradictoires, ça va être une part la sacralisation de la désacralisation.
Exactement.
C'est-à-dire, il faut sacraliser le blasphème, limite, puisqu'il devient intouchable. Oui. On n'a plus le droit d'interdire n'importe quel blasphème. Mmh. Et d'autre part aussi, un autre souci par rapport à ça, ça va être ça m'échappe. J'avais une deuxième idée, elle m'est partie, c'est pas grave.
Alors, l'argument de Charb, en fait, pourquoi effectivement il rappelle, et c'est assez difficile de lui donner tort, c'est que Charb, en fait, en est venu aussi à radicaliser aussi sa conception de la liberté d'expression et de la caricature, parce qu'en fait, effectivement, en face, la réponse des radicaux religieux musulmans manque, évidemment, singulièrement de nuance et de discernement, et que quelle que soit la caricature, quelle que soit le degré de caricature, il y a de toute façon un rejet total et un rejet de principe de toute forme de représentation de l'islam, de toute forme de représentation satirique. Hein, dont effectivement, c'était un extrait effectivement d'un texte de 2012. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un texte qui fout un peu les boules rétrospectivement. Hein, un texte de Charb, Rire bordel de Dieu, c'était le titre, et donc il cite ça sans en disant, et je pense qu'il a pas tort en montrant comment effectivement il est formulé presque comme une espèce de litanie et qu'on est dans une forme de sacralisation de la liberté d'expression, comme presque dans une forme d'iconoclasme religieux, je dirais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et bon, c'est pas faire injure à Charb ou à sa mémoire de dire ça. Le texte,
C'est plutôt un iconodule. Ouais, c'est un admirateur des images. Ouais. Plutôt qu'un briseur d'images.
Peint un Mahomet glorieux, tu meurs. Dessine un Mahomet rigolo, tu meurs. Gribouille un Mahomet ignoble, tu meurs. Essaie de débattre avec un obscurantiste, tu meurs. Il n'y a rien à négocier avec les fascistes, disait Charb. La liberté de nous marrer sans aucune retenue. La loi nous l'a donnée déjà. La violence systématique des extrémistes nous la donne aussi. Merci, bande de cons. Donc, la liberté de nous marrer sans aucune retenue. Et là, on rentre effectivement dans quelque chose qui relève de la liberté d'expression absolue. La liberté d'expression, voilà, ne se partage pas, ne se limite pas. Elle est absolue ou elle n'est pas. Et alors, réponse de Pétillon à l'époque aussi, encore, hein, donc c'est un débat effectivement d'avant les fusillades, ça. Donc, réponse de Pétillon, caricaturiste au Canard. Quand on critique les intégristes, tous ces délirants qui brouillent le message d'une religion quelle qu'elle soit, on ne doit pas tomber dans l'amalgame. Il faut cibler et ne pas causer de dommages collatéraux. En attaquant le prophète, on attaque tous les musulmans. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Ce que j'attaque, ce sont ceux qui interprètent les religions et qui imposent leur vue. Alors c'est une formule qui est une formulation qui est particulièrement prudente, je trouve, et qu'on pourrait effectuer, qui aujourd'hui vous écrivez ça aujourd'hui, vous êtes directement classé chez les islamo-gauchistes, wokistes, etc., etc. Ça c'est direct. Alors évidemment, il y a une distance historique là maintenant qui est importante là-dessus. Mais c'est là où on voit comment le débat a basculé et comment le débat effectivement c'est maintenant est devenu quasiment impossible et introduire ce minimum de nuances là effectivement n'est même plus possible. Et il montre que c'est intéressant, je trouve, la manière dont effectivement il cite les caricaturistes et par exemple quelqu'un comme Cabu qui lui était partagé et il reprend le cas de la caricature la fameuse caricature de Cabu, là c'est dur d'être aimé par des cons, où on avait effectivement une représentation de Mahomet avec un turban qui était avec une mèche allumée comme si effectivement
non, tu confonds deux là.
T'as raison.
Parce que celle avec la caricature, ouais. La caricature avec le turban, c'est la caricature de l'extrême droite.
La caricature danoise. Et donc la caricature de Cabu, à laquelle il fait référence, et donc une caricature où on voit Mahomet qui est dépité, effectivement, face aux dérives islamistes, avec le c'est dur d'être aimé par des cons. Et il montre comment Cabu a pensé tout ce dessin-là, justement, comme une caricature ciblant les radicaux musulmans et non pas l'islam en général ou les musulmans en général, et comment il a fait en sorte effectivement que la légende, en tout cas les parties de texte, ne soient pas séparables du dessin lui-même, du graphisme lui-même, pour qu'il y ait précisément pas d'amalgame possible, ou en tout cas pas de détournement possible, si ce n'est le fait de tronquer ou de modifier carrément le dessin, pour qu'on ne puisse pas effectivement tordre ce dessin-là comme une attaque, comme une critique de l'ensemble des musulmans. Et je trouve que ces débats-là sont intéressants parce que on peut pas accuser le Canard Enchaîné d'être un journal pro-religieux. Voilà, il y a plus d'un siècle de critiques et de satires anti-religieuses au compteur de ce journal-là. Donc ça compte, je dirais, hein, l'avis et la parole de professionnel, je dirais, de la caricature ou de la satire qui est portée par ce journal-là, elle compte au moins autant que celle effectivement des caricaturistes de Charlie. Et elle montre que il y a pas si longtemps, on pouvait encore discuter de manière rationnelle, je dirais. En fait, voilà, des limites de la liberté d'expression, des limites qu'un caricaturiste pouvait effectivement se fixer à lui-même pour éviter d'avoir des positions qui au fond sont peu défendables. Au nom de quoi effectivement on sacraliserait la caricature ou la satire qui désacralise les religions. On est sur du paradoxe là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et de fait le débat a pris une tournure quand même qui est assez inquiétante, parce que non seulement il y a sacralisation maintenant de la désacralisation, hein, sacralisation de la satire anti-religieuse, mais en fait cette sacralisation a des relais maintenant qui sont ceux directement de l'État, du ministre de l'Éducation nationale, de la recherche, des chefs de l'État, hein, qui va d'une certaine manière venir renforcer en fait cette sacralisation et qui va lui donner une connotation. Alors là c'est la fin du bouquin qui devient des fois pratiquement ouvertement religieuse, quoi, alors avec une espèce de forme de religion républicaine, de religion civile, de rite républicain, et d'une certaine manière défendre la caricature, ça serait maintenant, y compris dans ce cas-là, de plus outrancier ou de plus vulgaire ou de plus bête, en fait ça peut arriver, des caricatures ratées, pourquoi on n'aurait pas le droit de le dire. Eh bien le fait de le défendre serait effectivement défendre finalement ce qu'il y a de plus précieux dans notre identité collective, dans notre conception de la justice, dans notre conception de la liberté, et on arrive effectivement à des absurdités, c'est-à-dire qu'on arrive à une liberté d'expression qui est défendue de manière par l'État, qui est imposée par l'État, subventionnée par l'État, sanctionnée par l'État, où on somme d'une certaine manière les citoyens, les individus, d'être libres, comme le dit, comme l'État leur dit de l'être, d'une certaine manière. Et là, il y a une espèce de conception finalement complètement. Enfin, le Sharpe, c'est peut-être ce qu'il y a de plus tragique dans cette affaire-là. Enfin, quelqu'un qui a qui a priori a toute notre sympathie, je veux dire, en fait, en termes, enfin, militants, voilà, sympathisants libertaires, il y a plein de choses sur lesquelles on peut apprécier Charme, qui nous a aussi fait mourir de rire sur plein de choses, et en même temps voir qu'aujourd'hui il est récupéré, défendu, enfin récupéré non pas récupéré, et qu'il est défendu et qu'il est porté, je dirais, directement, que son œuvre ou que son héritage est porté par le gouvernement de Macron, par la République, par des gens comme Darmanin, par Sarkozy qui va défendre, qui était présent au procès de Charlie pour défendre Charlie et pour défendre la liberté d'expression. Enfin, on
marche sur la tête.
On marche sur la tête, quoi. On est effectivement. Mais l'intérêt du bouquin d'Errant, c'est de montrer que, en fait, il y a une histoire de ça et qu'il est important de remettre en perspective ça. C'est-à-dire que lui, il remet ça effectivement dans une tradition républicaine autoritaire qui est ancienne, hein, et qui fait remonter à Rousseau, d'ailleurs, à certaines formules de Rousseau qui sont connues, hein, effectivement, hein, sur la volonté générale et la possibilité pour le législateur de contraindre effectivement ceux qui ne seraient pas d'accord avec la volonté générale, donc avec la loi républicaine, hein, de les contraindre effectivement à être libres. Il y a une dimension effectivement de contrainte très forte, et il oppose à ça effectivement la réalité des débats et de l'histoire du droit républicain et de l'histoire de la liberté d'expression dans le droit, en France ou ailleurs d'ailleurs, hein, en montrant que les choses ont toujours été beaucoup plus compliquées que ça, parce qu'on ne peut pas prendre justement cette question de la liberté d'expression de manière absolue et indépendamment des autres formes de liberté auxquelles ont droit tout un chacun, même si on est musulman. Voilà.
Ensuite, ouais, bon, après, faudrait voir dans les trucs, parce que bon, je suis pas spécialement fan de Charme et de Charlie, hein, j'avoue, mais et qu'ils avaient fait des, enfin, bon, il y a plein de trucs qui étaient quand même problématiques à mon sens avant, mais ici le truc, c'était que ce qu'il faut voir dans la comparaison, c'est justement, c'était dans le débat, comment dire. Canard Charlie, c'est que justement il y a eu un moment où il y avait une espèce de place pour le débat, nous ce qu'on va cibler, c'est les fanatiques dans un mouvement donné, et c'est pas forcément toute une population, et puis après t'as la position Charlie qui va être vachement plus en position d'amalgame, quoi. Tout simplement, ils vont tout mettre dans le même panier, et ils ont quand même fait un paquet de dessins dégueulasses. Mais bon.
Et donc là, on peut peut-être reciter encore.
Et justement, c'est le truc de nous avons le droit de tout dire parce que, en gros, nous sommes en train de défendre la liberté d'expression, et en réalité, on va taper sur à peu près tout ce qui est dominé.
Mais c'est pas son argument à lui.
Non, je sais que c'est pas son argument.
Et je trouve que ça permet de sortir de cette affaire de qui domine qui.
Malgré tout, c'est une affaire importante, je pense, dans le rapport de force. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais cité les protestants. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que ça vient d'un protestant sous la Révolution française aussi, cette affaire-là. C'est-à-dire que. Justement, où est-ce que tu te places dans le débat public à ce moment-là? Est-ce que tu es en position de prendre des coups de bâton ou d'en recevoir? Et ce qui a troublé le truc, c'est que justement, là tu te retrouves avec un Charlie Hebdo qui d'un côté est soutenu par l'État et qui de l'autre côté s'est massacré par des terroristes. Et donc évidemment, dans le débat public, ça brouille toutes les pistes. Parce que... quand est-ce que on vient en secours de la liberté d'expression en prenant le parti de l'État et en prenant le parti malgré tout de la domination? C'est ça qui
sauf qu'encore une fois, pour le coup, je trouve que c'est pas son argument, et je trouve que on y gagne plutôt. Parce que cette question de domination, dominé, dominant, en fait, lui, il parle pas de ça. Il est plus concret que ça. Il me semble que c'est le dernier chapitre. Ouais. Il est consacré à des questions de discrimination factuelle et objective. Et il montre qu'effectivement, c'est pas une histoire de domination générale de l'État en général. Non, il montre qu'il y a de la discrimination anti-musulmane en France à l'embauche. Et qu'en fait, ça se mesure, que c'est quantifié, en fait, que les études existent, et qu'effectivement, aujourd'hui, avoir un prénom à connotation musulmane ou mentionner une pratique ou une affiliation religieuse musulmane sur un CV, c'est en fait quelque chose qui exclut du marché du travail. en France. Mmh. Alors, bien sûr que c'est une forme de domination. Ouais. C'est une forme de domination, mmh. mais c'est pas l'État en général. Ou c'est pas, ouais, tu vois, c'est en fait, c'est pour le coup, c'est du racisme mmh. systémique. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'est un racisme, voilà, qui s'appuie sur, enfin, c'est une discrimination systémique liée effectivement à l'identité musulmane ou en tout cas ou à la pratique religieuse musulmane. Donc, et je trouve qu'on gagne à être plus concret. Mmh. Je trouve qu'on gagne à être plus concret parce que sinon, le ping-pong dominé-dominant, si tu veux, il est trop. C'est pour le coup, il permet pas en fait d'avancer, mmh. d'avancer dans ce débat-là. Tu peux te traiter de dominant ouais. Comme ça à longueur de temps parce que tu trouveras toujours, voilà. C'est pour moi, c'est trop. C'est des catégories qui sont pas forcément, qui servent pas forcément à faire avancer la discussion. Et je trouve que justement, il s'en sort pas mal là-dessus mmh. d'éviter ce débat-là. Je dis, ça peut être légitime, hein, ouais. Évidemment. Mais je trouve que pour le coup, les arguments qu'il utilise sont plus pointus que ça, je ouais. trouve. Voilà.
C'est-à-dire que pour le coup, c'est le dernier chapitre qui, à mon avis, c'est malgré tout, j'ai tendance à penser que dans l'analyse de l'humour, bon, lui, c'est pas son objet, quoi, mais ça, c'est un des gros trucs, une partie de la droite s'est engouffrée au sens où t'as toujours une espèce de retournement des rapports de force fantasmés. C'est-à-dire que tout d'un coup,
racisme anti-blanc, etc.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les catégories, sociales, raciales, religieuses, françaises, qui finalement, où il y a des gens qui en prennent plein la gueule, se retrouvent accusés d'être les oppresseurs. Là-dessus, c'est quelque chose qu'on peut pas, malgré tout, oublier. Et donc, alors lui, là-dessus, c'est pas son objet. Et ensuite, à la fin, il va revenir aussi sur des histoires quand même qui sont effectivement très concrètes en termes de domination.
Oui, mais c'est pas la catégorie qu'il utilise. En fait, il parle d'islamophobie, ouais. effectivement, d'islamophobie traditionnelle ouais. en France, et il va citer effectivement un certain nombre de d'auteurs connus, d'ailleurs tout à fait honorables. Bon, pour en parler, on parlait tout à l'heure, hein, qui effectivement ont des déclarations. Voilà, il y a des déclarations de Maupassant, d'Ernest Renan, voilà, et qui en fait, donc des gens tout à fait respectables, hein, qu'on étudie à l'école, dans les programmes, etc., etc. Et il montre qu'effectivement qu'il y a une histoire de l'islamophobie en France, effectivement, que c'est un lieu commun, en fait, hein, c'est un lieu commun culturel lié, enfin voilà, qui est contemporain de la colonisation. Et mais c'est pas la domination au sens large, quoi si tu veux. C'est plus effectivement de l'histoire culturelle, je dirais, de l'analyse démographique sur de la discrimination, voilà. Et je trouve que c'est ce qu'il dit, en fait, les discriminations, ça se postule pas. Il y a une bonne formule là-dessus, hein. Il dit, ça se postule pas, ça se mesure. Voilà. Et la domination, il me semble que la difficulté, c'est un peu ça. C'est une catégorie qui est tellement large que justement, c'est la question de savoir qu'est-ce que tu mesures précisément. Alors, bien sûr que c'est une forme de domination, si tu es la discrimination religieuse. Mais tu vois, mais qui domine dans ce cas-là, tu vois, c'est compliqué, en fait, d'avoir cette catégorie est trop large, quoi, je trouve. Ouais. Hein. Et le fait
après, il la précise.
Mais il la précise. Il la précise, exactement.
Voilà. Au niveau social, ouais. économique, etc.
Mais sur le, au fond, on peut dire, si tu veux, que tout son travail, c'est toujours effectivement sur cette espèce d'équilibre là entre liberté d'expression qui défend, bien évidemment. Il est favorable à la liberté d'expression et en même temps le fait de dire que c'est la liberté d'expression peut pas être pensée comme ça de manière absolue, d'où effectivement les citations intéressantes là du canard. Alors, il propose aussi, c'est pareil, je trouve que les approches sont assez clair et assez éclairante aussi. Il dit qu'en fait, on a deux conceptions là derrière. On a une conception de la liberté d'expression qui est au fond paternaliste et qui consiste en fait à imposer la liberté aux gens malgré eux, d'une certaine manière. Effectivement, si les musulmans se sentent humiliés, d'une certaine manière, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que cette liberté d'expression et la liberté absolue de la caricature est finalement profitable et meilleure pour tout le monde et qu'elle est conforme à l'intérêt général et que c'est en fait parce qu'ils sont prisonniers de leurs convictions particulières qui n'ont pas encore compris ça, et que d'une certaine manière, se foutre de leur gueule ou les humilier par la caricature, d'une certaine manière, c'est pour leur bien. Effectivement, c'est un positionnement qui est typiquement paternaliste, c'est celui qu'on trouve aujourd'hui, au ministère de l'Éducation nationale, à droite, chez les Républicains, Printemps républicain, etc., etc., à longueur de temps. Et lui, ce qu'il oppose, c'est une conception de la liberté d'expression qui serait pluraliste, pluraliste. Alors effectivement, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il faut trouver du coup les équilibres entre la liberté d'expression légitime, voilà, dans le débat public, et puis le respect de la liberté de conscience et de la diversité, y compris de croyances avec lesquelles on est profondément en désaccord. Voilà. Bon. Alors, c'est tout ça sont des distinctions que je trouve assez utiles parce qu'elles permettent effectivement de sortir du jeu de ping-pong, tu vois, et du chantage entre islamo-gauchistes d'un côté qui défendent les dominés en général, voilà, et puis de l'autre côté ceux qui défendent voilà le la liberté républicaine et l'état de droit républicain, soi-disant. Voilà. Donc ça permet de préciser un peu les choses de manière utile, je trouve. Alors il y a plein de on va faire une petite coupure là-dessus, ouais. Coupure musicale et puis on prendra peut-être après du coup sur d'autres arguments.
Siento el dolor, pero duele más. La humillación, llama a la policía, me llamo a la justicia, que lo metan en la cárcel, volverá a intentar matarme. La repulsa ciudadana, el apoyo feminista, 1200 periodistas, me he comprado una pistola, me he comprado una pistola, me he comprado una pistola.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour cette troisième et dernière partie. Dans une émission donc consacrée à un livre de François Héran, Lettre au professeur sur la liberté d'expression. Et donc là, on venait d'essayer de vous exposer un petit peu comment François Héran essaie de montrer les problèmes qui sont posés par justement l'opposition de. Enfin, l'opposition. Le difficile arrangement qu'il peut y avoir entre d'un côté liberté d'expression et de l'autre côté liberté de conscience, et lui il essaie de montrer que la période récente a vu une espèce d'absolutisation de la liberté d'expression et que justement au nom de la liberté d'expression on aurait le droit de tout dire et que en face finalement les gens qui ne partagent pas notre opinion seraient obligés de la fermer d'une certaine manière et de se soumettre parce que notre liberté d'expression est absolument totale. Et lui ben justement il essaie de montrer que ben, c'est quelque chose qui en réalité est intenable enfin et du point de vue du droit et du point de vue politique aussi parce que si on veut vivre en paix, ou si on veut essayer de vivre aussi de façon juste, peut-être, de ne pas écrabouiller une partie des gens qu'on écrabouille déjà souvent, il faut peut-être aussi changer de normes, quoi, tout simplement. Enfin, tout simplement. Ben, c'est pas du tout évident.
Non.
Et si c'est évident de changer de normes, ça se saurait. Et comment ? Et donc là-dessus, bon, ça fait, il y a pas mal de débats assez épineux et douloureux, parce que évidemment, il y a aussi toute une partie des débats qui sont presque devenus impossibles après les attentats. Et donc, lui va revenir dessus. Et moi, j'aime bien la dernière partie de son livre, parce que dans la dernière partie de son livre, il va revenir sur au moins deux choses. C'est d'une part l'histoire de l'islamophobie en France, parce qu'on a on a pu dire que l'islamophobie était liée limite que c'était une création des djihadistes et qu'il n'y ait pas d'islamophobie, que c'est un mot qui venait de gens qui voulaient défendre uniquement l'islam et comment dire et que bon c'était une fiction. Et puis d'autre part aussi il va revenir sur tout ce qui a pu être critiqué sous le nom d'intersectionnalité et aussi de discrimination. Et lui, il va revenir sur des dominations très, très réelles, très, très mesurables, et qui sont mesurées.
Des discriminations.
Des discriminations, ouais, c'est ça. Des discriminations qui sont extrêmement mesurées, que ce soit dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, dans tout un tas de biens sociaux qui sont vitaux, littéralement vitaux, quoi. Et donc là-dessus, il est, à la fin, c'est propre, parce que justement.
Et puis, l'intérêt, c'est la formule, ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, c'est que. La fin est particulièrement convaincante parce qu'en plus il retourne la fameuse critique du cancel la cancel culture là et la question qu'il pose c'est en fait qui veut effacer qui en fait dans cette affaire là. Et alors on accuse aujourd'hui ceux qui veulent déboulonner les statues voilà dans la foulée du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis et puis dans les pays anglo-saxons où effectivement on déboulonne les statues d'esclavagistes, les statues des grandes figures de la domination blanche en fait hein, dans le cadre de la traite etc. Et donc la cancel effectivement là c'est cancel culture c'est voilà on voudrait effacer cette mémoire là d'une certaine manière. Et en fait lui ce qu'il montre c'est que aujourd'hui ceux qui veulent effacer la mémoire, ce sont ceux qui, au contraire, sont dans le déni des traditions islamophobes en France notamment, et des discriminations réelles, factuelles. Et qu'effectivement, le fait de nier l'islamophobie. Alors après, il s'engage pas sur le terrain de savoir si quelle est l'origine, s'il y a pas une instrumentalisation. On peut par ailleurs, effectivement, être d'accord avec l'idée que l'islamophobie peut être instrumentalisée par des fanatiques, à des fins politiques, pour effectivement faire avancer. Oui, donc c'est un aspect. Il n'empêche que, c'est un fait historique qu'il y a une tradition islamophobe en France, alors qui est liée à la colonisation, mais pas seulement. Alors je vais citer quand même, parce qu'effectivement, il le dit.
C'est essentiellement lié quand même à l'invasion de l'Algérie.
Ah, c'est lié à l'invasion de l'Algérie, mais alors les citations qu'il donne, alors, il y a effectivement, elles sont quand même assez éloquentes. Alors, il y a le fameux général Bugeaud, hein, celui qui part à la conquête de l'Algérie, même si au départ, en fait, effectivement, lui n'y était pas forcément favorable. Il y va sur une mission politique avec laquelle il ne partage pas. Bon, il n'empêche que rapidement, en fait, il va quand même incarner le rôle de manière assez convaincante. Hein. Je cite Bugeaud, qui explique effectivement, donc voilà, nous sommes en 1841, donc il poursuit la conquête de l'Algérie, reçoit la visite d'un journaliste venu de métropole qui exulte. La fin de l'islam est proche. On parlait alors de l'islamisme sur le modèle du catholicisme, judaïsme ou protestantisme. Donc là, quand on parle d'islamisme, c'est l'islam dont il est question. C'est Bugeaud qui parle aux journalistes et qui explique « Les derniers jours de l'islamisme sont venus. Notre siècle est probablement destiné à le voir quitter les rivages de l'Europe. Attaqué sur tous les points, le croissant se brise et s'efface. Dieu le refoule, il l'envoie au temps marqué, périr dans les déserts d'où il est sorti. Alger, dans 20 ans, n'aura plus d'autre Dieu que le Christ. » Bon. En 1841, c'est pas les croisades de Saint-Louis, là. Donc c'est effectivement à 1841, voilà, c'est conquête de l'Algérie, Charles X. Il continue, hein, donc voilà, repoussé au sud du Sahara, l'islam est voué à s'éteindre. Il cite à nouveau Bugeaud. À mesure que la lumière se fait, il s'éloigne et va chercher des civilisations inférieures. Son croissant est un astre de nuit, que les déserts l'accueillent jusqu'au jour où il doit s'éteindre absolument et n'être plus qu'un nom dans l'histoire. C'est le dessein de Dieu d'en finir avec l'islamisme, il est déjà temps de louer Dieu. L'auteur de ces prophéties n'est pas n'importe qui, c'est Louis Veillot, le directeur de l'Univers, l'organe du parti catholique ultramontain qui jouera un rôle moteur, etc. etc. Donc voilà, citation aussi, même contexte historique. On va plus loin, alors là on va aller chercher un petit peu du côté de nos chers littérateurs. Citation suivante, toujours, alors là, c'est 1831, donc c'est encore avant. « Nulle peuplade dorénavant n'aura le droit de rester barbare à côté des nations civilisées. L'islamisme est le culte le plus immobile et le plus obstiné. Il faut bien que les peuples qui le professent périssent s'ils ne changent pas de culte. » Diatribe signée Alfred de Vigny, 1831.
Et obstiné, en fait, Véran souligne que c'est un terme qui renvoie à l'antisémitisme classique.
Absolument, absolument.
Ouais. C'est-à-dire, c'est les juifs qui sont obstinés à ne pas reconnaître,
la venue du Christ.
Et donc ici, vous avez une espèce de, comme ça, de conjugaison entre, finalement, islamophobie et antisémitisme. Ouais, ouais. Qui souvent se répète et qui a différentes manifestations et qui peut se repérer dans ce genre de détails.
Alors on saute un peu, on va un peu plus loin dans le temps. 30 ans après, il nous dit, donc 1861, un brillant professeur achève sa leçon inaugurale en usant du même registre pour évoquer l'islam. Alors il cite, on donnera le nom après. « Alors qu'il est, la condition essentielle pour que la civilisation européenne se répande, c'est la destruction de la chose sémitique par excellence, la destruction du pouvoir théocratique de l'islamisme, par conséquent, la destruction de l'islamisme, il s'agit ici de l'islam, hein, bien sûr, car l'islamisme ne peut exister que comme religion officielle. Quand on le réduira à l'état de religion libre et individuelle, il périra. » Là est la guerre éternelle, la guerre qui ne cessera que quand le dernier fils d'Ismaël sera mort de misère ou aura été relégué par la terreur au fond du désert. L'islam est la plus complète négation de l'Europe. L'islam est le fanatisme. Citation d'Ernest Renan, donc professeur au Collège de France. J'ai envie de dire, la dernière citation de Maupassant, vous vous trouvez en face d'un peuple de fanatiques, rien que de fanatiques, pour en venir à bout, c'est leur religion qu'il faut frapper, qu'il faut abattre. Alors, tout ça, c'est quoi l'intérêt de ces citations-là? Donc, on est en 19e siècle. L'intérêt, c'est de montrer que ces citations, elles existent, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un fait historique, effectivement, que un discours islamophobe, comme on peut dire un discours antisémite, a existé, qu'il a été porté, développé par des littérateurs, par des universitaires connus, par des militaires de haut rang. Alors après, on en pense ce qu'on veut, si vous voulez, mais il n'empêche que c'est une réalité historique. C'est une réalité historique et qui a évidemment une importance culturelle. Se poser la question de savoir ce qu'il en reste aujourd'hui ou quels sont les effets de ça, quels ont été effectivement le contexte dans lequel ils sont professés, mais est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui est une question tout à fait légitime. En ce sens-là, et là, en l'occurrence, on ne parle pas effectivement de Baraka City, on ne parle pas des gardiens de la révolution iranien, on ne parle pas des transfuges des frères musulmans en France. Non, on parle effectivement d'une tradition bien française, et il est tout à fait légitime de se poser la question de savoir ce qui reste de ça. Et donc ça, c'est pareil, je trouve que c'est assez sain, si tu veux, de remettre effectivement cette question-là. Que par ailleurs, le terme soit instrumentalisé par un tel ou un tel à telle ou telle fin, peut-être, il n'empêche que. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, pareil, sur le déni, qui veut effacer qui veut effacer quoi, plutôt, hein, qui est dans le déni de quoi. Sur la question des discriminations religieuses, hein, il montre que les études existent, ont été faites et refaites, qui prouvent qu'effectivement, que à âge égal, origine identique, réussite universitaire et expérience professionnelle équivalente, la religion peut faire et fait encore la différence sur des CV, et qu'il existe donc bel et bien en France des discriminations religieuses, qui se confondent pas avec les discriminations ethno-raciales, mais qui s'y ajoutent, il montre. Et ça, effectivement, ces études, les critères, ils existent, hein, effectivement, en jouant sur le nom, en jouant sur les allusions, effectivement, sur les signes d'appartenance à telle ou telle communauté religieuse, en jouant sur la combinaison nom-prénom, hein, avec un même nom, Haddad, en changeant effectivement le prénom. Les études sont assez astucieuses de ce point de vue-là pour essayer de faire apparaître clairement les critères de discrimination objectifs qui interviennent, hein, à l'embauche. Et ils montrent effectivement que si ça existe, si c'est mesurable, en fait, on ne peut pas rester dans le déni de cela. On ne peut pas rester dans le déni de cela. Et on ne peut pas effectivement dire que si c'est simplement une affaire de fantasme, de domination, ou de etc., comme le disent aujourd'hui effectivement ceux qui réduisent la question de l'islamophobie à une manipulation de l'opinion par des salafistes de telle ou telle obédience. Donc ça, effectivement, c'est un rappel que je trouve assez assez sain et assez efficace à la fin, hein, et qui rappelle aussi que peut-être que un des dangers, en fait, il ne s'agit pas de minimiser des dangers. Effectivement, il y a des radicaux religieux, ils existent, il faut les combattre, etc. Mais il y a aussi, les radicaux républicains ne sont pas plus rassurants. Hein, et ils montrent effectivement que l'espèce de dérive religieuse dans l'apologie des valeurs de la République, avec des traductions aussi juridiques bien réelles, hein, comme l'outrage au drapeau, l'outrage à la Marseillaise, alors l'accoutrement républicain de Blanquer de la dernière rentrée. Bon, en fait, voilà, il y a une espèce d'emballement, en fait, qui est en train de se faire autour de ça, qui lui, pour le coup, peut avoir effectivement une dimension religieuse un peu flippante, parce qu'il s'agit effectivement d'une religion républicaine d'État, en quelque sorte, hein, avec effectivement ses outrages, ses blasphèmes, sa sacralisation, etc., etc. Et que les mêmes qui, d'une certaine manière, voilà, bah, sacralisent la désacralisation dans les caricatures de Charlie Hebdo, les caricatures de Coco, etc., etc., les mêmes vont effectivement défendre une conception sacrée des valeurs républicaines qui est tout aussi stupide, hein, et tout aussi indéfendable, d'une certaine manière. Donc, voilà, en résumé, les intérêts, en fait, et le type d'arguments assez fin et assez rafraîchissant, en fait, et stimulant qu'on a dans ces livres de François Héran, Lettre au professeur sur la liberté d'expression, qu'on vous conseille, donc.